au Capi Action. C'est malheureux, c'est un sabotage. Donc ça devient une tricherie, ça devient une corruption.
Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations.
Ils ont des moyens très limités.
En tout cas, c'est appréciable.
Non, le problème ne réside pas à ce niveau-là, madame. Mademoiselle.
Au Capi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Nicole Ngata.
Et oui, nous allons retrouver d'ici là nos confrères qui sont déjà en ligne afin qu'ils nous éclairent sur un autre dossier toujours en République démocratique du Congo. Ils sont plutôt dans Bala qui quitte pour retrouver Fabien Kambinzi. Kambinzi, allez, il est déjà en ligne, Fabien. Mbote Nangé, Fabien Kambinzi. Quel Mbote Kudana qui quitte?
Mbote Nicole, bête non son mbote quoi qu'on a quitté.
Avec vous, on va aborder la question concernant les problèmes qu'on rencontre en ce qui concerne la fièvre typhoïde. Nous savons que dans la ville de Kikwit, il y a une augmentation inquiétante de cas de perforation intestinale. Comment se présente la situation de fièvre là-bas au niveau de la ville de Kikwit?
Oui, Nicole, tout d'abord, le profil des malades est en majorité des personnes des conditions socio-économiques très bas, du sexe féminin et l'âge est de plus de 5 ans et moins de 25 ans. Au total, Nicole, on a enregistré 861 cas de la fièvre typhoïde depuis le 21 août jusqu'à ce jour. Sur les 320 cas de perforation intestinale due à la fièvre typhoïde reçue, 83 ont été opérés et 18 décès enregistrés.
Et quels sont, selon vous, les médecins ou encore les véritables causes de cette augmentation de la fièvre typhoïde? Est-ce que les médecins vous l'ont dit?
Oui, Nicole, les causes, vous les connaissez très bien. Et quand on évoque la fièvre typhoïde, les médecins nous parlent toujours de la maladie des mains sales, les aliments mal conservés et aussi les mêmes aliments non cuits. Mais ici, Nicole, les médecins mettent l'accent sur l'assainissement précaire dans toute la ville. En bref, il y a manque d'hygiène personnelle et collective.
Ça veut dire que la ville de Kikwit est très sale, parce que nous savons que la fièvre typhoïde existe partout au Congo, il y a des cas, mais on retient que à Kikwit, il y a sur 326 cas enregistrés, il y a eu déjà 18 décès qui ont été enregistrés à l'hôpital général de référence de Kikwit en l'espace seulement d'un mois et demi. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, Fabien. Comment réagit alors la population de Kikwit face à ces mesures? Parce que j'imagine que certainement qu'il y a eu des mesures d'assainissement qui ont été prises par l'autorité locale. Est-ce vrai?
Oui, Nicole, l'autorité locale a trouvé une stratégie pour juste lutter contre la fièvre typhoïde. Le maire de la ville, Floribert Mboma, vient d'initier depuis quelques jours, Nicole, les travaux de Salongo à travers toute la ville. Et cela chaque vendredi, Nicole. Pendant ce temps, toutes les maisons de commerce, magasins, boutiques, kiosques et marchés restent fermées jusqu'au midi. Et aussi, le maire de la ville a arrêté une décision, Nicole, interdisant la vente d'eau en sachet. Je vous propose tout d'abord, Nicole, avant de passer aux déclarations, aux réactions de la population, et d'écouter le maire de la ville à ce sujet.
Nous avons pris ces mesures dans le cadre de la lutte justement contre la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, en principe, c'est une fièvre qu'on dit de mains sales, c'est-à-dire que c'est provoqué par la malpropreté du milieu et des personnes. C'est ainsi que nous avons pris ce train de mesures pour combattre justement la fièvre typhoïde. Dans ces mesures, nous avons d'abord préconisé la salubrité publique. Donc, nous avons instauré, nous avons pris des mesures de salon. Salon, c'est-à-dire, nous devons entretenir notre ville. Et puis, nous avons réhabilité, si vous voulez, le service d'hygiène. Le service d'hygiène s'occupe de la salubrité publique, de la propreté de la population. Donc, on doit réhabiliter les WC, les toilettes, ainsi de suite. Donc, c'est un service qui doit veiller à ce que la ville soit propre. Et dans ces mesures aussi, nous avons interdit la vente d'eau en sachet. Pourquoi? Parce que l'eau qu'on vend en sachet, nous ne connaissons ni la source dont la provenance de cette eau, ni la conservation avant qu'on la livre à la consommation.
La vente de l'eau en sachet, c'est partout au Congo hein, que ça existe. Hein. Vous savez, Fabien Kamenzi, ça veut dire que partout au Congo, on est exposé aussi à la fièvre typhoïde. À Kikuit, on a pris des mesures d'encadrement par le maire de la ville. Est-ce que la population, elle, adhère à toutes ces mesures? Est-ce qu'elle est d'accord avec ce que l'autorité de la ville a pris comme mesure d'encadrement?
Oui, Nicole, la population salue tout d'abord les initiatives du maire, mais elle demande que l'assainissement soit tout d'abord fait aussi à l'hôpital général. Écoutons à ce propos les réactions de la population de Kikuit.
Kikuit malade à fièvre, fièvre au bas de la typhoïde, vraiment pour le bâtir, il faut hygiène de la macasse. Là, le côté hôpital, là, l'hôpital à Kikuit est déjà trop sale. L'hôpital est déjà bouché, tout mal, toujours, mais là-bas, là-bas, il faut que la pompe, il faut que la pompe,
C'est très étonnant, ça me garde la salité, il y a qu'un acteur dans la boîte, mais plutôt, niveau même, il y a l'hôpital, il y a bien assainisé. Parce que, maintenant, tout va bien, bon, l'hôpital, quoi, bon, que ça va se faire approprié, soit élevé en beauté, et puis, l'urgence qui est propre vers, l'installation hygiénique qui est propre vers.
La chèvre se base souvent par manque de la propriété qui se trouve dans notre ville. Non dans la cité mère, même dans l'hôpital général. Là, à l'hôpital général, il y a beaucoup de l'insalubrité, voire même dans des patients, il y a les salités impossibles. Dans des patients, il n'y a pas la propriété. Puisque aujourd'hui, vous pouvez entrer même dans un pavillon ou visiter un ami, mais ça sent. Dans le barrage de l'hôpital, il y a l'insalubrité, il y a comme des poubelles partout. Le maire de la ville a désigné les gens pour faire le salon ici, mais ça ne va pas. Le salon se fait dans la cité, mais pas dans les hôpitaux.
Le salon se fait dans la cité, pas dans les hôpitaux. Beaucoup l'ont dit, hein. Fabien Kambenzi, beaucoup ont reconnu que le maire de la ville fait beaucoup d'efforts, mais ça ne suffit pas. Il faut aller directement à l'hôpital général, des références de Kikuit. Est-ce qu'il en est conscient, lui, le maire? Vous lui avez posé la question directement?
Oui, à ce sujet, j'ai posé le maire de la ville, Floribert Mboma, la question. Il a répondu dans le sens qu'il a rencontré les services de la Croix-Rouge. Le maire a demandé à ces services de la Croix-Rouge de temps en temps passer au niveau de l'hôpital pour
l'assainissement
de l'hôpital. Mais il reste à savoir si réellement les secouristes ont accepter cette proposition-là de la ville, Nicole.
Ok, on va terminer peut-être par là, Fabien Kambenzi, parce que nous savons que les ONG sont présentes partout en République démocratique du Congo. Est-ce que il n'y a pas quelques ONG qui s'occupent, comme tu dirais, de la prise en charge non seulement des malades, mais aussi de l'assainissement de la ville de Kikuit?
Oui, tout au début, là, Nicole, Mémis à Belgique avait ouvert un guichet où elle vendait à moins cher de ces produits, hein, ces médicaments. Mais il y a un soulagement aujourd'hui du fait que les malades de la fièvre typhoïde bénéficient des soins gratuits donnés par les médecins sans frontières qui sont descendus sur place à Kikuit. Mais jusque-là, Nicole, il n'y a pas encore un changement. Et beaucoup de malades traînent encore dans des petits centres médicaux où le nombre de décès même, Nicole, ne sont même pas signalés.
Merci beaucoup Fabien Kambenzi, Matondo Mingi. À présent, on va faire le point avec notre invité, avec vous. Peut-être qu'on aura à aborder d'autres questions prochainement dans cette émission qui est au Capi Action. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci encore et à la prochaine.
Ok, Matondo Mingi, Nangenti, Nicole.
Now fire night in the midst of crime.
next door to happiness there follows. And signals of delusion in the sky. A city of justice, a city of love, a city of peace for every one of us. We all need it. Can't live without it. Gotham City. Oh yeah. I'm sleeping awake because I'm here. Oh yeah. Our children are drowning in their tears. We need a place where we can go. A land where everyone will have a hero. City of justice, a city we love. A city of peace for every one of us. Cause we all need it, and can't live without it. A Gotham City. City of justice, yeah. City of love, city of peace, every one of us. We all need it, yeah. Can't live without it. Gotham City.
Nous sommes à Kikwit pour vous qui nous suivez. Vous êtes vraiment en boucle de poser vos questions. Hein. Tout simplement, nous appelons 081 890 63 94 aujourd'hui. Il n'y a pas moyen d'envoyer des SMS. Sûrement, il y a un problème technique. Il faut nous appeler hein, pour participer à l'émission et poser vos questions. Surtout à temps pour ceux-là qui nous suivent sur 103.5 là-bas à Kikwit. Et nous parlons aujourd'hui de l'augmentation inquiétante des cas de perforation intestinale. Il y a beaucoup de cas de fièvre typhoïde là-bas qui entraînent la perforation intestinale. Pourquoi? On va poser la question directement à notre invité, le docteur Eric Ilunga, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kikwit. Bonjour docteur Eric.
Bonjour madame Nicole.
Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a maintenant des cas de perforation intestinale à la Kikwit alors que nous savons que la fièvre typhoïde existe partout au Congo hein?
Oui, bien entendu. Hein.
Alors, la réponse, c'est laquelle? Pourquoi il y a des cas de fièvre typhoïde qui amènent à une perforation intestinale?
Bon, si nous devons dire que la fièvre typhoïde amène à la perforation, il y a beaucoup de causes. La première cause est que les perforations arrivent à la troisième semaine techniquement et que s'il y a des retards, et dans le traitement où le traitement n'est pas bien donné, il y a des perforations qui arrivent et après peut-être il y a la mort. Donc nous avons beaucoup de cas de perforations suite à un retard de diagnostic, aussi à un mauvais traitement selon notre analyse.
Mmh. Donc, il y a eu des cas de mauvais traitement, aussi des cas qui sont arrivés en retard. Et pour le malade, ouais. Comme je suis, en tout cas les personnes exposées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exposées. On nous a dit tout à l'heure que on appelle la typhoïde la maladie des mains sales. Et nous savons que la ville de Kikwit est tout de même sale, hein, parce que notre confrère l'a reconnu avec quelques personnes qu'il a eu interviewé. Il y a beaucoup de sachets qu'on retrouve, les ordures, et puis les hôpitaux, notamment l'hôpital général de référence de Kikwit est très sale. Vous êtes médecin directeur de cet hôpital. Qu'est-ce que vous faites concrètement ce qui concerne l'hygiène de ce centre hospitalier?
Bon, pour le moment, nous sommes en train de voir comment mettre un peu plus de propreté dans l'hôpital.
Comment?
Et avec l'intervention de la Croix-Rouge, et nous avons pratiquement des journaliers qui sont en train de mettre la propreté et aussi éduquer la population pour qu'ils prennent un peu en charge les déchets qui sont en train de fournir.
Oui, mais nous savons que l'hôpital de référence, c'est quand même un grand hôpital, hein, docteur Eric Ilunga. Nous savons que tout hôpital, en tout cas, devrait avoir des frais de fonctionnement. Vous recevez des malades en nombre important par jour. Autrement dit, vous pouvez à la fin du mois vous retrouver avec quelques frais qui peuvent vous aider à bien faire fonctionner l'hôpital. Pourquoi vous ne le faites pas?
Bon, ce n'est pas que nous ne le faisons pas. Ce que nous faisons n'est pas tellement très perçu donc du côté de fonctionnement et aussi dans l'assainissement de l'hôpital. Bien que l'hôpital peut générer les frais, mais ce sont des frais qui sont minimes vu que la population, nous avons un taux d'insolvabilité très élevé donc à l'hôpital, ce qui fait que le fonctionnement déjà de l'hôpital pose un très sérieux problème.
Docteur Eric Ilunga, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kikwit, qui est là pour répondre à vos questions. Jusque-là, il n'y en a pas, hein, au 081-890-63-94, c'est vraiment dommage. Docteur Eric Ilunga, juste une dernière précision, vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là.
Oui, on retient une chose, c'est qu'au moins 326 cas, dont 18 décès, ont été enregistrés à l'hôpital général de référence de Kikwit en l'espace d'un mois et demi. Ce sont des cas de fièvre typhoïde?
Oui, bon, ce sont des cas de fièvre typhoïde que nous avons pu recevoir au niveau de l'hôpital général de Kikwit et que déjà à partir de la 35e semaine, nous avons commencé à avoir des complications nous arriver et nous avons demandé à l'autorité compétente de voir comment prendre en charge ces choses-là. Donc, et maintenant, avec l'autorité provinciale, et l'OMS, et l'autorité sur place, et politique aussi, que nous avons pu analyser la situation pour voir comment trouver des solutions, surtout pour les cas de perforation qui nous arrivent. C'est ça qui est un peu compliqué, parce que nous vivons déjà avec la fièvre typhoïde, mais maintenant, le cas des complications qui nous arrivent avec beaucoup de perforations, ça nous a beaucoup inquiété.
Oui, ça vous a beaucoup inquiété, c'est vrai, mais nous savons également que dans la majeure partie, ces cas-là, c'est un mauvais traitement, tout simplement, hein, qui est à la base de cela, parce que dans bien des cas, on fait parfois une mauvaise consultation, hein, on s'adresse à un médecin qui n'est pas, comme qui dirait, vous donne un mauvais traitement. Alors à la longue, ça a des conséquences, hein, n'est-ce pas?
Oui. Bon, c'est bien ça. Donc, c'est ce que l'analyse pour les perforations. Et aussi, nous devons dire aussi que, à part cet aspect-là des traitements mal donnés, il y a aussi l'aspect que les malades peuvent rester à la maison pour ne pas prendre les médicaments par manque de moyens. Et c'est ce qui a causé beaucoup de cas de perforation.
Mais nous savons...
Et c'est quand nos amis des MSF sont arrivés, Médecins Sans Frontières, et il s'est amélioré vraiment sensiblement avec la gratuité
Oui, mais reconnaissez tout de même que Dr Eric Ilunga, que le diagnostic de la fièvre typhoïde ressemble un peu au diagnostic du paludisme.
Bien entendu, les diagnostics sont vraiment superposables. Mais après quelques jours, si vous donnez un traitement antipaludéen, ça ne marche pas. Et dans les contextes que nous avons ici sur place, la personne ou le médecin ou les soignants doivent se rendre compte qu'il y a aussi la fièvre typhoïde qui doit vraiment diagnostiquer.
Et parfois c'est trop tard. On a déjà donné un diagnostic de paludisme. Alors par après, le temps de compléter et de donner un autre diagnostic et un autre traitement, c'est trop tard. Le malade arrive pratiquement à un stade où on ne peut plus rien faire. Hein. Et c'est pourquoi il y a des cas de décès, j'imagine.
Bon, c'est un peu... pas tellement comme ça, parce que, Madame Dicol, je dois vous dire que si la personne vient à temps, deux jours avant, et on peut déjà voir que ce n'est pas le cas de paludisme, c'est la fièvre typhoïde, on peut changer les traitements et ça peut s'améliorer. Parce que si nous devons voir le temps de perforation et le temps que la maladie doit prendre avant cette perforation, on peut déjà prendre des mesures qui sont très bonnes.
Voilà, mais docteur, oui. Docteur Eric Ilunga, on va terminer par là. Beaucoup de ceux-là qui nous ont appelés, mais qui n'ont pas pu poser directement leurs questions parce qu'ils nous l'ont dit au téléphone. Beaucoup ont appelé pour réagir directement au téléphone. Et bon nombre nous ont dit que l'hôpital où vous êtes le médecin directeur est très sale. Il est temps de faire quelque chose, hein, docteur Eric. Que diriez-vous à tous ces auditeurs qui disent que l'hôpital de référence est très sale et que c'est cet hôpital qui est à la base de, justement, de la fièvre typhoïde à Kikwit?
Bon, je dirais que c'est pas possible et c'est pas normal. Bon, je sais que bon, tout le monde peut dire que l'hôpital peut être à la base, mais ce ne sont pas des cas qui viennent, qui sont de l'hôpital. Donc, ce sont des cas que nous recevons de l'extérieur, qui nous viennent des centres de santé.
Je veux bien, mais reconnaissez.
Bien que la salubrité de l'hôpital pose problème,
oui.
C'est ce que nous avions commencé à dire. Nous sommes en train de voir avec tous nos partenaires, MEMISA et tous les autres, pour voir comment nous pouvons arranger cette situation-là.
On peut croire que cet hôpital deviendra propre quand exactement, docteur? Vous avez déjà une date dans le projet que vous avez avec MEMISA et les autres partenaires?
Bon, pour le moment, bon, nous sommes encore en pourparlers. Et j'espère bien qu'avec nos petits efforts que nous sommes en train d'entreprendre.
Allô? Malheureusement, on a été coupé avec le docteur Eric Ilunga, mais vous avez retenu qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, notamment avec les partenaires MEMISA, et puis nous a cité également Croix-Rouge. Et puis, il attend également le concours de tous ceux qui viennent régulièrement à l'hôpital pour qu'ils apprennent à être propres, nous a dit le docteur Eric Ilunga, pour justement éviter des maladies comme la fièvre typhoïde. On remercie le docteur Eric Ilunga, là, il nous a suivi d'avoir intervenu dans cette émission. Retenez que dans un instant, on va vous retrouver pour aborder avec vous d'autres sujets.